J'enrage, dérange, désape, décape le sexisme et l'hétéropatriarcat.
Désolée pour cette arrivée d'émission. Là, je parle pour les podcasts parce que du coup, vous allez arriver. Mais on a démarré l'émission il y a quelques minutes. Vous n'avez pas raté grand-chose pour l'instant. Juste la présentation. Pardon. Alors, du coup, je reprends. Donc, il y a ce festival de littérature Coups humains dans la 7e édition. À partir du 15 septembre, 14h, notamment avec plein de petits trucs féministes, concerts, lectures, écoutes, expos, ateliers d'écriture. Allez voir sur le Facebook, littérature, puissance, etc. Chez Violette, le mercredi 12 septembre. Alors, il y a un truc avec le rap en ce moment.
Ouais, avec le flow. Alors, je sais pas très bien.
Mais... Ladies in rap.
Ouais. D'accord.
C'est ça. Il va y avoir des super concerts. Je sais pas si on va. Il y a Samu qui vient, je crois. Et Rêverie. Oui, enfin, ça va être trop bien.
Non, il y a Rêverie qui vient.
Il y a Rêverie qui vient.
C'est vendredi, du coup, 21, je crois. 21. Ce concert-là.
21 septembre.
Ouais.
Je note. Alors voilà.
Du coup, il y a un atelier 15h30, 18h, refaites-leur le portrait. Donc chez Violette.
Création art plastique.
C'est ça. Et les portraits réalisés seront exposés dans le bar à bulles de la maison Moulin, pardon, dans le cadre de Ladies in Rap. Le jeudi 13 septembre, il y a un apéro-discussion de Merge Espagnol. Ça, c'est où ? C'est toujours chez Violette. Les femmes peuvent-elles aimer le rap ? Sur ce thème large et polémique, nous serons épaulés par la rappeuse roubaisienne Punchline et par une habituée de la culture hip-hop, Naïma. Cette discussion aura lieu dans le cadre de Ladies in Rap numéro 2. Et toujours dans le cadre de Ladies in Rap 2, donc on a Rap Féminin et Toi, qu'est-ce que t'écoutes ? Le 18 septembre, de 18h à 20h, au Flow. Plus chez Violette, c'est un apéro découverte pour échanger autour de la culture rap féminine, de Kenny Arcana à Nicki Minaj, en passant par Mia, Sonita et d'autres artistes. Le Flow et chez Violette proposent d'écouter les voix qui ont fait et qui font la culture rap. Une discussion pour échanger ses goûts en matière de rap féminin et découvrir de nouveaux artistes. Partage de musique, des supports seront à disposition pour écouter les différents sons proposés par les participantes, plus mise à disposition du fonds musical du Flow. Voilà, après il y a une conférence sur l'écoféminisme. Ah bah tiens, faudrait que j'y aille. Café citoyen, 28 septembre, 19h30, 7 place du Vieux Marché aux Chevaux, donc à Lille. On va finir par un point sur la manifestation du 24 août qui a été faite en l'honneur de Vanessa Campos, qui est une travailleuse du sexe trans et péruvienne qui a été assassinée dans la nuit du 16 au 17 août au Bois de Boulogne à Paris. Donc c'est avec tristesse, deuil, effroi, dégoût et colère pour nombre d'entre nous lorsque nous avons appris sa disparition. Ce qui est arrivé à Vanessa n'est pas le fruit du hasard. Nous avons conscience que la violence faite envers nos sœurs, collègues, est une violence de la société putophobe, transphobe et raciste. En 2018, la situation des TDS, des personnes transgenres et migrantes, a atteint un point critique. Les lois visant à criminaliser le travail du sexe, le projet de loi asile et immigration, l'invisibilisation des personnes trans. Toutes ces structures couplées aux oppressions des civils rendent notre quotidien invivable. Nous ne pouvons pas survivre dans un système qui nous met sans relâche un couteau sous la gorge. C'est d'abord en hommage à Vanessa Campos que nous faisons ce rassemblement, vendredi à 18h30, place de la République, mais c'est aussi un cri de révolte contre la putophobie, la transphobie et contre le racisme, une déclaration de guerre lancée à cette société suffocante et oppressive, rassemblons-nous tout ensemble, TDS, LGBTQIA+, exilés et migrantes solidaires et résistantes de ce monde. Il s'avère que le flingue qui a servi à la tuer est un flingue de flic perdu.
Ouais, ils en perdent comme ça. Et en fait, ils les perdent notamment depuis qu'ils ont le droit de les ramener chez eux.
Quelque soit une coïncidence quand même.
C'est ça.
On est toujours très étonnés.
À Jean-Rage, nous ne faisons aucune spéculation. mais...
bon, ouais, abusé quoi.
Et du coup, ce retour, il vient d'où, Louise ?
De quoi ?
Le retour que tu as pris ça, c'est quoi la source ?
Le communiqué de presse, il était sur Indie Media et puis l'information concernant le pistolet de qui était à un policier, c'est France Info quoi. Enfin, clairement, ça a été connu de tous et toutes. Et en fait, ils évaluent. Enfin voilà, ils ont vu que l'une des conséquences de la loi pour que les forces de l'ordre puissent se protéger elles-mêmes en toutes circonstances, et donc de ramener leur outil de travail qui est leur pistolet chez eux, a fait qu'il y a, alors je suis très nulle en chiffres donc je vais pas dire de conneries, mais il y a un certain nombre de pistolets qui ont disparu, et notamment sur la région Île-de-France. Et c'est ce pistolet qui
c'est
a servi
rassurant.
À
c'est oui. vraiment pas rassurant,
non. Non, non, et puis on peut dire qu'on a perdu son arme de travail et continue à l'utiliser en fait, et ouais, ça à un moment faut pas se voiler la face en fait. Je pense que c'est ça qui est aussi important, enfin pas se mentir en tout cas.
C'est intéressant aussi de dire l'outil de travail c'est le pistolet, l'outil de travail de la police c'est le pistolet. C'est
oui.
cool quoi.
Alors oui non mais bon voilà, bon
c'est... Non, mais oui. ça fait un peu partie de ça quoi. Enfin,
oui c'est ce que c'est devenu en fait.
Mais genre c'est leur outil de travail principal quoi. Enfin bon.
Bah en fait, ça fait très longtemps qu'on... Ouais, que c'est plus le dialogue, en tout cas. Quand ouais. on les voit en manif, quand
alors,
on les voit
ailleurs. Je suis désolée, je vais faire le pointant un peu relou. Parce que là, du coup,
il faut c'est
Louise qui va devoir démarrer sur son Zoom Actu Friche Saint-Sauveur.
Ouais, alors...
Mais en tout cas, ce sujet est quand même intéressant et c'est indispensable d'en parler. On en fera une autre émission.
Bah, je pense que ça serait à creuser, que ça serait hyper intéressant, en tout cas, effectivement. Oui, effectivement, la Friche Saint-Sauveur. Donc, vous savez, je suis une grande. Je reviens toujours sur ce sujet. C'est quelque chose qui me tient à cœur, notamment parce que j'habite juste en face de la Friche Saint-Sauveur et que les travaux commencent à avoir lieu. Donc, on commence à avoir plein de camions, les bitumes, les arbres, tout est en train d'être rasé. Et cet été, il y avait aussi la possibilité de venir. Enfin, ils ont demandé à des assos lilloises de venir faire des activités sur cette friche. Donc, on voit qu'il y a des choses qui ont été mises en place, etc., pour dire un peu regardez comme c'est cool, bientôt ça va être des centaines de milliers de bâtiments, vous êtes trop contents, super, la vie c'est super cool. Et donc en fait donc les travaux ont lieu, il y a eu une enquête, la première fois que j'en avais parlé c'était en avril, pour dire il y a une enquête publique qui demande aux habitants, habitantes de pouvoir exprimer leur point de vue, aux associations aussi sur cette friche, et il y avait un gros rempart en tout cas qui était contre la mise en place de cette friche, et plusieurs assos se sont réunis et ils ont mis en avant plusieurs problématiques par rapport à la Friche Saint-Sauveur, notamment qu'il y a plusieurs retours de la mairie et que sur ces retours, tous les chiffres sont différents. C'est-à-dire que d'un seul coup, on dit qu'il va y avoir un certain nombre de centaines de bureaux, un autre nombre et encore un autre nombre, etc. Et en fait, on se rend compte que les chiffres ne sont jamais les mêmes. Donc voilà, c'est globalement ce qu'ils mettent en avant dans un rapport. Ils ont fait un rapport interassociatif sur la question. Donc ils disent, bon voilà, il y a une incohérence sur les chiffres. Ensuite, comme peu de gens le savent, mais on va avoir une nouvelle piscine olympique à Lille. Donc il y a déjà Marx Dormois à Bois Blanc, si vous voulez. Et là, on s'est dit, ah ben non, une seule. Alors vous allez m'entendre mes papiers, mais c'est parce que je suis en train de chercher dans ma montagne de trucs. Ah ben non, une seule piscine olympique quand même pour Lille. C'est dommage. Donc on s'est dit une deuxième, ça serait bien. Donc qui va nous coûter donc sur les impôts 50 millions d'euros. Hein, construit à la hâte pour servir aux Jeux Olympiques de 2024 de, entre guillemets, base arrière à une compétition sportive mondiale. Bien sûr que tout le monde oubliera au bout d'un moment, dès qu'il y aura d'autres performances qui vont être mises en avant. Et en plus, dans cette merveilleuse piscine olympique, nous allons avoir une fosse de plongée de 40 mètres de profondeur, c'est-à-dire quasiment la hauteur de l'Arc de Triomphe. Alors récemment à Dunkerque, ils en ont construit une autre qui fait 20 mètres de profondeur, c'est-à-dire que on vient de construire une piscine à Dunkerque avec 20 mètres de profondeur, on s'est dit ah non c'est pas assez, alors on va en faire une, voilà.
Le double.
Ouais, et voilà, donc tout ça, c'est génial. Et puis, donc en gros, la guerre commence un peu avec les assos. On voit qu'il y a des projets similaires qui ont été mis en place à Caen. Notamment, en fait, il y a une personne qui tient un blog qui s'appelle Bénédicte Vidaillé, donc qui écrit tant sur Mediapart que sur le site de Fête la Friche. Donc, fête comme faire la fête, hein, voilà, parce qu'on met un peu de positif dans tout ça. Et en gros, elle met en avant que ce projet, il a eu un peu un projet similaire à Caen, donc qui a été l'un des plus grands projets urbains en France. Sur ces dernières années. Donc en gros, on voit que les grands promoteurs du bâtiment et de la construction s'en mettent plein les poches, qu'en gros, ça permet quand même à 75 enseignes de pouvoir faire de l'argent pour que les gens viennent flâner et dépenser leur argent. C'est génial. Avec, bien sûr, 11 chaînes de restaurants ouvertes 7 jours sur 7. Hein, bien sûr, pas de repos pour les braves. Et puis...
Capitalisme power.
Ouais, voilà. Donc en gros, on sait à quoi ça va servir. Les arbres, il faut qu'ils fassent 4 mètres de haut, pas plus, et on les met soit dans les pots, soit on les empêche que leurs racines se propagent, parce que quand même ça pourrait abîmer nos dalles de béton, au secours. Voilà, bon, bref, nous on va avoir encore mieux qu'à Caen, hein, donc la programmation, c'est des bureaux et des activités commerciales à foison. Et puis aussi, 2500 logements. On sait très bien que ce ne sera pas pour les anciens habitants de Moulins qui se sont fait dégager par la gentrification. On ne va pas se mentir. Et puis voilà, on va bien se marrer. Et puis juste, il y a deux, trois trucs. J'aimais beaucoup sa conclusion. Pascal, elle disait, en fait, nous, on a essayé en tant qu'habitants. Enfin, moi, je sais que j'ai envoyé des mails. Je vois des assos qui ont écrit plein de trucs sur le sujet. Ce qu'elle met en avant, c'est que c'est pas sur le champ de la raison que là ça se passe. On est vraiment sur un autre champ du pouvoir, du politique, et qu'il s'agit pas. Il ne s'agit pas de chiffres, et la raison n'est qu'une façade, une façon d'habiter le monde, de le désirer, de le sentir et de l'imaginer. Donc là, je cite son article Friche Saint-Sauveur à Lille, La guerre des mondes, et je vais reprendre sa conclusion que je trouve merveilleusement belle. Donc elle s'adresse à tous ses promoteurs et à Martine Aubry et Stanislas, alors il faut que je retrouve, Stanislas Dandievel, excusez-moi, adjoint à l'urbanisme de la ville de Lille, qui en ont rien à foutre de nous ce qu'on vit et ce qu'on pense. Elle leur dit « Ceux-là qui s'arrogent le droit de modeler notre destin, qui jouent à SimCity, mais avec nos villes, ils sont-ils jamais venus à cette friche ?» Ont-ils gravi un flanc du belvédère pour y admirer le couchant du soleil que ponctue le beffroi ? Ont-ils senti le vent qui fait frissonner au printemps les vagues de graminées sauvages ? Se sont-ils émerveillés des dizaines d'orchidées dont on n'a pas besoin de savoir qu'elles sont une espèce protégée pour faire le vœu, au premier regard de leurs miraculeux pétales en forme d'abeille, qu'on les verra refleurir ? Se sont-ils demandé qui nous avait légué ces arbres superbes qui faisaient écran à la circulation de l'ancien périphérique, transforment ce lieu en havre magique ? Ont-ils pu apprécier l'incongrue zébrure lumineuse du métro aérien le soir ? Ont-ils été saisis par la force de la vie végétale qui recouvre l'asphalte ou vient éclater le béton de la friche ? Ou par la force de ces vies humaines qui tentent, là, de perdurer aux marges ? Si leur agenda s'entroue, leur véhicule à chauffeur, leur vie efficace et climatisée les en ont empêchés, alors ils ne peuvent pas comprendre ni notre attachement à ce lieu, ni à la violence de ce qu'ils nous imposent. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous nous dressons sur la route balisée de leurs projets. Nous refusons leur monde. Nous ne renoncerons pas au nôtre. Nous ne pouvons que leur tendre la main et les inviter à nous suivre. Et sinon, tant pis. Ce sera la guerre. La guerre des mondes. Voilà.
Ouais.
Donc, je pense que voilà.
Tu pourrais appeler son nom, du coup, peut-être. Ouais, si, du coup, s'il y a des.
Alors, c'est Bénédicte, je crois, Bénédicte Vidaillé, V-I-D-A-I-2-L-E-T. Et donc, on peut trouver, voilà, elle a un blog. Et c'est plutôt chouette et c'est agréable à lire, je trouve.
Une jolie plume, hein.
Jolie plume, ouais. Et je pense que, voilà, il y a Faites la Friche, qui est une asso sur l'île qui se regroupe au Café Citoyen, et puis peut-être à un moment penser aller bloquer, faire une ZAD sur la Friche Saint-Sauveur, j'en sais rien.
ZAD à Lille.
ZAD à Lille. Non, mais en même temps, à un moment, comment on empêche ces projets immobiliers ? Et je pense que c'est comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut se mobiliser ? Et je pense que là, c'est le moment. Et en fait, c'est aussi à faire le lien avec ça, et aussi des choses, des expulsions de squat qui se passent aussi en ce moment, c'est-à-dire de comment on nous refuse d'habiter la ville comme on en a envie.
Celle des 18 ponts, on vous rappelle, qui a eu lieu il y a quelques mois, malheureusement.
C'est ça, le 29 juin.
Qui était un site où il y avait quand même de l'activité militante.
C'est ça. Et, et aussi, comment on laisse, on coupe l'électricité et l'eau, notamment à des squats comme le 5 étoiles, qui accueillent des personnes enfin des personnes exilées. Et je pense que c'est aussi ça, c'est comment on habite cette ville. Et je pense que de penser aussi globalement tout ça sur l'habitat qui ne sera jamais au profit des personnes les plus mises à l'écart de la société et dont, voilà... les personnes LGBTQI+, et autres, enfin voilà, et voilà, peuvent être aussi concernées, vu qu'on sait que c'est pas là que réside la plus grande richesse, en tout cas financière et économique.
Ah, ça.
Pardon, mais désolé, je pense à cette accent débile, désolé.
Du coup, il y a un gros blanc parce qu'on est, je pense qu'on se concerte silencieusement.
Ouais, mais voilà. Donc. C'est fini pour... J'ai essayé de faire court, j'étais concise.
Ah non, mais t'es carrément dans le temps. Écoute,
donc on va s'écouter une petite zik, Cass.
Ouais, une petite zik, une grande zik plutôt même, puisqu'il s'agit de The Upshit Carter de Beyoncé et Jay-Z.
Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, we living lavish, lavish. I got expensive fabrics, I got expensive habits. He wanna go with me, he likes to roll away. He wanna be with me, he wanna give me that vitamin D. Ice ornaments, ice style tournaments. You ain't on of this, don't think they on of this. But I'm a jet. Shut down Khalid. Give me the ball, give me the ball, take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with Beyonce, I'll make you famous. Hey. Have you ever seen the stage going ape shit?
I'm like Chief, keep me Rafiki, who been lying king to you? Pocket watch it like kangaroos, tell these clowns we ain't amused. Man, the clips for that monkey business, 4-5 got changed for you. Motorcades when we came through, presidential with the planes too. Went bet against you with the residential, undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl, you need me, I don't need you. Every night we in the end zone, tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo, stage diving in a pool of people. Ran through Liverpool like a fucking beetle, smoking Rilla glue like it's fucking legal. Tell the Grammys, fuck that 0 for 8 shit. Have you ever seen a crowd going ape shit?
Step my money fast and go.
Fast, fast.
Fast like my Lambo. Jumping off the stage, ho.
Jumping, jumping, hey, hey.
Crowd better save up.
Crowd going, hey, hey.
I can't believe we made it.
This is what we made, man.
This is what we thankful for.
This is what we think, man.
I can't believe we made it.
It's a different thing.
Have you ever seen a crowd going ape shit?
Haters in danger.
Danger.
Whole lot of gangin', 35 chains.
Chains.
I don't don't give a damn about the fame. Nope. GA planes, Alexander Wayne. Woo. She a thought that you claim. Woo. Can be typing my range. Oh. I'm popping my bitches, I'm popping. We go to the dealer and cop it off. Sipping my favorite alcohol. Got me so lit, I need Tylenol. All of my people, I pray I'm on. I finna whip, wanna see the stars. Sending the missiles off. Tricking my inhibitions off. 250 for the rich and meal. Yeah, yeah, live in the field. My body made jiggle go near. Man, my mama, my lord, my shield. Look at my jewelry, I'm lethal. These diamonds on me, they see through. I'm a Martian, they wishing they equal. I got M's off the back of Ibiza. Give me the ball, give me the ball. Take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with him, say I'll make you famous. Have you ever seen a crowd going ape shit? Step my money fast and go. Fast like a Lambo. I be jumping off the stage, ho.
Bah on va pouvoir démarrer sur la super chronique de Mia, Queer of Color Vibes.
Et voilà. Du coup, ben voilà, c'est la première, première rubrique de la rentrée, Queer of Color Vibe. Et du coup, à cette occasion, on est allé interviewer Julie Anne, qui est la chanteuse du groupe Soul Addiction, qui est un groupe amiénois qui font des reprises soul et qui tournent et qui marchent très très bien, en tout cas dans notre région des Hauts-de-France. Et on espère que ça tournera aussi un petit peu plus loin. Enfin, ils ont fait une tournée aussi en Normandie et ça s'est bien passé. On espère que vous aurez l'occasion de les découvrir. Et du coup, bah, on enchaîne directement du coup, avec cette petite interview. Et voilà, on écoute Julianne.
Depuis quand tu chantes ?
Bah, j'ai commencé à chanter à 14 ans, sous l'impulsion de mon oncle qui faisait du rap. Et qui vient de la Cité Verte à Colombes. Et au début, il me donnait quelques petits. Alors, c'était comme d'habitude, hein, à la Vita, des refrains. Et après, il a essayé de me faire poser. Et j'étais très, très, très timide. Donc, du coup, j'ai galéré. Mais après, plus tard, j'ai eu un groupe où j'ai fait des concerts à mes 20 ans, un truc comme ça. Enfin, quand je suis arrivée à la fac, donc c'était plutôt 18, 19. Et pendant une petite année, et je me suis fait repérer par un groupe de musique qui s'appelait Idler's Row. Et un groupe de 12 musiciens, c'était du reggae fusion. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des scènes, des belles scènes, comme les premières parties de K2R Redeem, Scatalites, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, Los Tres Puntos, voilà, des trucs comme ça. Et après, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai fait un petit hold-on sur la musique pour ensuite trouver des musiciens pour faire des covers de soul et revenir à ce qui me plaisait de base, quoi, parce que moi, je suis soul, rhythm and blues, gospel et toutes les musiques noires américaines qui en découlent et toutes les musiques noires en général, de toute façon.
Et du coup, justement, ta rencontre avec la soul music, est-ce que tu te rappelles, genre peut-être un artiste, une artiste particulière qui vraiment t'a fait un déclic?
Ben, je pense que mes parents, ils ont toujours écouté de la musique éclectique et beaucoup de musique noire, de toute façon. Puis que mes parents, ils sont afro-descendants, surtout ma mère, parce que mon père, il est plus mauricien, donc il est plus noir indien. Que je sache, parce que c'est difficile avec la colonisation de savoir vraiment d'où on vient quand on vient de ces îles-là. Mais on peut dire quand même que concrètement, j'étais super fan de Mariah Carey. Et je pense qu'aussi, c'est parce que c'est aussi une artiste qui me ressemblait. Et c'est pour ça que j'ai vachement accroché. Et après, forcément, bah, t'écoutes Mariah Carey, viens Whitney Houston, viens Aretha Franklin. Et tu repars en grandissant, je suis repartie à aller chercher la base de la soul et tous les grands noms, jusque Mahalia Jackson. Toutes les nanas qui ont fait du gospel, même Sister Rosetta Tharpe, etc. Plus les années passées, plus je suis allée retourner à la base, essayer de trouver la base.
Et du coup, le groupe Soul Addiction, comment il est né, à quel moment? Enfin, tu racontais déjà un petit peu l'historique tout à l'heure. Les personnes qui t'accompagnent, est-ce que tu peux me dire un petit peu la formation, comment ça s'est passé?
Bah, c'était pas super facile, je vais vous dire toute l'histoire parce que sur France 3 Picardie on n'a pas dit toute l'histoire, mais c'est que j'avais commencé avec un gars qui était dans un groupe à moi avant et je voulais faire que du piano voix. L'idée, c'était de faire que ça. Et très rapidement, il m'a dit, bah, vas-y, il nous faut une contrebasse et tout. Et il a proposé Bertrand. Bertrand que je connaissais pas du tout, du tout, du tout. Ou si vite fait, de milieu militant un peu basique. Et en fin de compte, on a commencé à travailler à trois. Puis lui, il a vite quitté le bateau. Donc on a, avec Bertrand, on s'est dit, nous, on continue. Parce qu'on a accroché aussi... au point de vue idéologique, je pense. Et du coup, on a trouvé Thomas, avec qui j'avais fait un peu quelques... On a fait quelques compos tous les deux qu'on sortait pas, en fait, donc on n'a jamais sorti encore. Et c'est comme ça qu'avec Thomas, il est arrivé en 2016. Et de 2016 à maintenant, on est à trois. Et l'idée, c'est de faire ça d'une façon la plus épurée. Musicalement, on a quelque chose de fort, ouais, qui nous lie un peu, c'est ça.
Et du coup, donc, Soul Addiction, vous faites des reprises. Et comment vous choisissez en fait ces morceaux-là, les reprises que vous faites?
Le critère, c'est quand même la voix, parce qu'il faut savoir le chanter. Donc, franchement, les musiciens, ils ont beau avoir leur partition, ok, déjà, c'est des fois difficile sur certains compos de retaper des choses que t'as pas l'habitude, parce que par exemple, Bertrand, il vient du jazz à la base, et il y a certains trucs. Donc c'était tout un apprentissage, et les chansons, on a choisi les gros standards, mais c'est surtout nos coups de cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de reprendre, et après forcément le message il est super important, parce que la soul music, la musique noire américaine des années 60, c'est une histoire forte par rapport aux droits civils, etc. Donc forcément, et puis moi forcément, comme je suis une femme, il y a aussi certains trucs que j'avais envie de prendre, comme souvent là on ouvre les concerts avec It's a Man's World, et c'est super important d'avoir une femme qui la chante, je trouve. C'est encore plus impressionnant, je trouve, que quand c'est des gars. Et après, il y a par exemple Change is Gonna Come, c'est vraiment sur le fait qu'au bout d'un moment, il y aura l'égalité et justice sur les questions raciales. Après, c'est des histoires d'amour, forcément. Et puis, il y a des questions humaines très très fortes, en fait, même dans les paroles qui paraissent un peu bateau, la soul, c'est jamais choisi par hasard.
Et du coup, donc, t'es une meuf artiste racisée, et du coup, c'est pas toujours simple, on le sait. Et est-ce que t'as rencontré ou déjà eu des expériences de discrimination sexiste, raciste, classiste au cours de ton parcours?
Oui.
mais
c'est toujours... ça n'a jamais été ouvertement... Enfin, c'est toujours... En fait, c'est des micro-agressions, quoi. C'est genre, ah, tu devrais plus lâcher ta touffe, nanana, panthère, nanana... c'est plutôt des trucs où t'as pas l'impression, enfin comme c'est dit comme un compliment, la plupart du temps c'est un peu ça, mais t'as pas l'impression que c'est une agression, mais en fin de compte c'est un petit peu sur ton corps, etc. Et puis surtout, ce qui était plus difficile, c'est quand t'es une nana de surcroît raciste et de surcroît pauvre, les gens ils se permettent de dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Et surtout, c'est toujours eux qui détiennent en fait un petit pouvoir sur ton image ou qui tu es, en fait. C'est eux qui décident de si t'es bien ou si t'es pas bien, sans jamais vraiment beaucoup te poser de questions. Donc, t'as souvent, d'une façon sous-jacente, l'impression d'être comme une merde, et tu te rends compte que si t'as pas les épaules, même si t'es très talentueux, tu peux te retrouver à devoir baisser les bras, parce que t'auras beaucoup plus de gens qui seront là pour te descendre de toute façon. Il faut être forte et s'entourer de bonnes personnes, en fait, ceux qui ont envie de te donner le change pour que tu progresses, en te payant correctement, en relayant ce que tu fais, en te donnant des contacts. Il faut s'entourer de ces gens-là qui te poussent vers l'avant, plutôt que ceux qui critiquent et qui, en fin de compte, ont soit pas d'arguments ou des arguments de merde. Voilà.
Comment t'abordes, toi, la question de la visibilité, de la promotion, de la communication du groupe?
Ce qui est bien, c'est qu'aussi, au fur et à mesure, on a des discussions qui sont profondes, en fait, avec Thomas et Bertrand. sur la question du privilège blanc ou des choses comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se tentent à faire des trucs comme ça, mais on s'est pris beaucoup la tête sur des choses. Et l'intérêt, c'est qu'on s'écoute et que ça avance grâce à ça. Et souvent, les gars, c'est soit je m'impose un petit peu et après ils laissent faire, ou sinon c'est assez normal qu'ils me laissent parler, en fait. Du coup, c'est assez safe pour ma part. Alors, les questions de visibilité, c'est un grave taf qui prend vachement sur le musical. C'est qu'il faut te faire du réseau, mais... Enfin, moi, j'ai fait des campagnes de réseautage, j'ai plein de tricks, etc. Pour pouvoir... pas forcément... c'est pas du rachat de gemmes. Hein, parce qu'une fois, j'avais demandé par exemple un groupe qui s'appelle The Old Chaps s'il met un gemme sur ma page, etc. Moi, j'ai kiffé ce que tu fais. Il me disait, oh non, nous, on n'est pas trop comme ça. Enfin, moi, je suis pas comme ça non plus. C'est-à-dire que tu mets un gemme si tu aimes, quoi. Enfin, tu mets pas un gemme parce que tu as mis un gemme. C'est pas l'idée. Et donc, du coup, le truc, c'est que c'est beaucoup de réseaux, beaucoup de trucs Facebook. Comment trouver des gens qui vont kiffer ce que tu fais, qui vont relayer. Donc du coup, c'est trouver des groupes Facebook par exemple qui sont dans ton style, trouver des groupes de musiciens qui pourront relayer le truc, c'est aussi aller de ville en ville en fait pour pouvoir faire ton truc, mais aller à la rencontre de gens qui font travailler dans le même style que toi. Donc et puis leur poser des questions, etc. Des fois ça marche pas. Mais sinon, beaucoup de nanas de Paris, etc. où on se soutient en fait. Ça reste toujours discret pour l'instant. Et après sur la question de l'image, on en parlait encore aussi avec Thomas tout à l'heure où cet été j'ai eu le temps beaucoup de réfléchir à qu'est-ce qu'on attend de nous en fait. En tant que chanteuse, pas trop moche, enfin en tout cas. Ou des choses comme ça quoi. Mais en gros l'idée c'est qu'est-ce qu'on veut dire, comment on nous voit et comment on se comporte. Il y a toujours, c'est très compliqué. Et je pense que c'est aussi le fait d'être une femme, en général, dans le milieu de la musique. Mais de surcroît, forcément, quand tu cumules, etc., racisée, LGBT, tout ça, de classe sociale pauvre, parce que c'est aussi très difficile. Quand tu as des parents, etc., qui t'aident, qui te motivent, mais quand tu n'as plus personne et que tu n'as pas de sous, forcément, ce n'est pas la même dynamisme. C'est pas le même dynamisme. Tu ne vas pas voir les gens disant « Oh, c'est bon, tu peux me payer de bière et je ne sais pas quoi. » Non, parce qu'en fait, c'est vital. Et du coup, sur la question de la visibilité, je crois que j'y suis pas au bout, quoi. Je me pose des questions à comment on voit et comment on veut me voir, etc. Mais pour l'instant, vu qu'on fait des covers, ça reste quelque chose de classe, ça doit être dans l'idée classe. Mais moi, je suis, enfin, je sais pas, quand je suis sur scène, je suis très naturelle. Donc des fois, ça part un peu en cacahuète, c'est pas si classe, quoi. Pour finir vraiment avec cette question de visibilité, quand tu fais des covers, au bout d'un moment, t'es dans un style. Moi, j'ai décidé, par exemple, de m'attacher la plupart du temps les cheveux, en fait, quand je suis sur l'addiction. Parce qu'en fait, c'est une image que les gens veulent de moi. Et pensant faire des covers. Mais quand, au bout d'un moment, je vais faire mes propres choses à moi, et parce que c'est une quête, en fait. La musique, elle va toujours... tu vas toujours plus vite, des fois, par rapport à tes pensées, ou plus lentement, ça dépend. Et du coup, par rapport à l'image que tu donnes. Donc, les gens, ils doivent se rendre compte que c'est un processus, et que, du coup, ça prend le temps que ça prend. Et ouais, je suis à 1/9 de cette question de la visibilité que je dois encore maîtriser, réfléchir, penser, redistribuer.
Bah du coup, on va finir par des questions un peu plus légères. Ton artiste, personnalité afrodescendante du moment?
Aretha Franklin. Eh oui. Rest in peace, rest in power. T'as aiguillé toute ma vie, meuf. Et tu vas même pas encore finir. Et ouais, non, vraiment, c'est... Elle est au-dessus de tout, quoi. Voilà.
Est-ce que t'aurais un message de soutien un message à adresser en tout cas aux artistes queer of color qui soit démarrent, soit sont aussi peut-être dans les mêmes processus que toi actuellement, que ce concernant la visibilité ou concernant leurs projets, etc.
Avoir confiance en soi, s'entourer de bonnes personnes, avoir des gens qui donnent des critiques constructives. Savoir se remettre en question et se battre. Yeah.
there's a light, a certain kind of light, it's never shone on me. I want my whole life to be here with you, here with you, baby. There's a way. Everybody says do each and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know.
You don't know what it's like.
No, you don't know.
Baby, you don't know what it's like.
You don't know what it's like
to love somebody.
To love somebody.
To love somebody.
To love somebody.
Love you.
In my brain, yeah, I see your face again. I know my frame of mind. You aren't caught to be so blind.
Vous êtes sur RCV 99.fm.
Génial, bien fait.
Et on écoutait donc Soul Addiction suite à l'interview de Juliane, qui est la chanteuse du groupe Soul Addiction. Ils jouaient, ils étaient en concert vendredi soir à Lille, vendredi 31 août, et ils repasseront à Lille le 13 octobre au Lyoté. Donc retenez la date parce que franchement, ça vaut le coup, vraiment. Voilà.
On est d'accord. Hein.
Et ben c'est la fin de la rubrique Queer of Color Vibe. Et on passe à la suite et je laisse Cass reprendre le micro.
Alors du coup il est 14h44 et il nous reste encore un peu de temps pour parler avec Alice de Récup.
Ouais.
Donc Alice, toi tu fais partie de Poubelle en Or. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Poubelle en Or?
Oui, tout
petit jeu de mots si vous avez saisi en or.
dans le nord, en or, parce qu'on trouve plein de trésors.
Je me demande très belle qui a trouvé ce jeu de mots.
Non, mais tu sais que je viens de le
comprendre. Mais c'est Ambre qui a dû...
Non, la loose. Je viens de comprendre le jeu de mots.
Ah, pourtant, on a tout fait. Il y a des petits traits, des points, des... Enfin, on a changé les couleurs, qu'on voit bien or.
Merci de m'éclairer. Merci de me montrer la lumière dorée.
Je suis là, Louise, pour toi.
C'est ça. Alors, Poubelle en or collectif qui s'est fondée à peu près il y a 3 ans, on va dire, sachant qu'avant, il y avait des récups informels qui s'organisaient. Alors, moi, j'y étais pas à ce moment-là, mais apparemment, c'était les jeunes écolos des personnes qui étaient aux jeunes écolos qui se sont rencontrées et qui, du coup, faisaient de la glane et qui ont eu envie à un moment de formaliser quelque chose d'un peu plus visible, d'un peu plus officiel avec des gros guillemets, parce qu'on n'est pas association et on veut pas être association. On tient au truc de collectif, j'expliquerai après pourquoi, mais du coup il y a un collectif qui se fonde sur le modèle des gapilleurs ou gaspilleurs, je pense qu'on dit gapilleurs, qui est un collectif je crois sur Paris mais je suis même pas sûre, et bref un jour ils viennent donc à Lille et ils expliquent un peu la méthodologie transmission de savoir et donc Poubelle en or se fonde, il y a des personnes qui arrivent à trouver un local, donc on a un local pendant un an et demi, 2 ans à l'usine BIS, puis l'usine BIS à Moulins a été rachetée, donc du coup plus de local maintenant depuis un an.
Ça a été rasé même.
Ouais. Et on aimait bien notre local, c'était très chouette, on pouvait faire des distributions quand on voulait, ça c'était le bon côté, le mauvais côté c'est qu'on avait un loyer. Collectif informel, ça peut être difficile. Mais ce qui était super, c'est qu'on avait du coup une porte ouverte hyper facilement. Il suffisait d'ouvrir le volet. On pouvait distribuer dans le quartier. On pouvait accueillir des gens, centraliser les choses. C'était vraiment génial. C'était très efficace. C'était super pour tout le monde. Puis il y a aussi ce côté où d'être collectif, on distribue à n'importe qui. C'est-à-dire que, par exemple, quand on veut aller en épicerie solidaire, eh ben, il faut être un bon pauvre, c'est-à-dire qu'il faut avoir le quotient familial, il faut montrer sa patte de pauvre, il faut être estampillé pauvre pour avoir le droit d'aller là. Et donc, nous, non, c'est pas du tout notre truc de vouloir faire du tri comme ça, quoi. On est, même si des fois on a des partenariats avec d'autres collectifs, on va aller, quand on tombe sur beaucoup de choses, on va aller essayer de se synchroniser avec par exemple des gens qui vont faire la bouffe pour les migrants, des gens qui font des maraudes pour les SDF et on essaye de... On va un peu dans tous les sens, dans le sens où comme on a un collectif ahiérarchique, j'ai envie de dire, où on n'a même pas de veto, on n'a même pas de procédure d'exclusion des membres, enfin on est vraiment très très libre. Il y a un côté où chacun, chacune qui a une envie vient, l'apporte, et puis, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord, c'est pas grave, ça se teste. Les gens testent leur énergie, font ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, ça, c'est vachement chouette. Parce qu'en plus, le côté d'aller... Est-ce que j'ai dit qu'on faisait de la récup alimentaire? Je crois que je ne l'ai même pas dit. Hein.
Je l'ai précisé sur Facebook, mais je pense que les gens...
Ouais, on pourrait le redire. Hein. Donc, on fait de la récup alimentaire.
Si ce n'est pas clair, voilà.
Voilà. Donc, de la glane qui peut être, du coup, en marché. Mais surtout, nous, on va beaucoup aller faire les poubelles des grandes enseignes... poubelles qui sont souvent inaccessibles. Donc, il y a aussi un aspect de désobéissance, parce qu'on va se retrouver en violation de propriété privée quand on va aller glaner dans certains cas. Sauf que les poubelles, elles seraient accessibles. On n'aurait pas besoin de franchir des barrières, des barbelés.
Il y a un côté de désobéissance civile, en fait, aussi. Tu m'en avais déjà parlé. Du fait d'aller carrément escalader des, des trucs pour avoir accès aux poubelles.
On fait du sport aussi. C'est...
Ouais.
Alors, moi, j'ai juste une question en termes de légalité. Donc, tu dis que c'est de la violation de propriété privée.
À partir du moment où tu franchis une barrière...
Ouais.
Qui limite la propriété de... d'une personne morale ou du, enfin peu importe, particulier, privé, enfin peu importe quoi, enseigne, à partir du moment où tu franchis une barrière, t'es en violation de propriété privée.
D'accord.
Donc ça, c'est voilà, c'est répréhensible.
Mais à aucun moment leurs poubelles, elles sont accessibles ou...
Il y a des enseignes où t'as des poubelles qui vont être accessibles et qui, bon ben, en centre-ville, tu trouves des poubelles accessibles où il faut passer avant l'ébène et parce qu'ils passent vite. Hein. C'est-à-dire les poubelles sont sorties, t'as un créneau d'un quart d'heure, une demi-heure pour aller faire les poubelles. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une organisation de toute façon pour rendre la nourriture pas facilement accessible, même si c'est de la nourriture qui est jetée. Or, ben nous, quand on va faire les murs comme ça et puis regarder ce qu'il y a dans les bennes, ben on hallucine, quoi. Enfin, c'est-à-dire que y a énormément de choses qui sont jetées. C'est des tonnes et des tonnes de nourriture. Des fois, des choses qui sont en état impeccable parce que il va y avoir une commande de quelque chose qui est plus fraîche qui est arrivée, donc ils vont jeter des choses qui sont encore parfaite, mais parce qu'il y a du... Il faut réachalander ce qui vient d'arriver. Et, enfin, c'est le principe du flux. Il faut que ce soit toutefois disponible tout le temps. C'est ces logiques économiques alimentaires qu'on a maintenant, qui sont des logiques qui n'ont rien à voir avec la consommation.
Mais ce qui veut dire que c'est des dates de péremption, en fait, qui sont encore vacantes. Parce que, bien entendu, même les dates de péremption, elles ne sont pas...
Là, je pensais plus aux frais, pour le coup. Là, c'est plus le frais. Par exemple, la blinde de kiwi, la blinde de haricots, la blinde où tu vas te retrouver avec une benne remplie de ça, parce qu'ils ont reçu au passage autre chose. Mais après, effectivement, il y a la problématique des DLC qui sont de toute façon pensées, comme beaucoup de normes, hein, pour pousser à la DLC. Croissance. Date limite de consommation.
Pardon. C'est ce que le petit truc que tu vois dans le dos des aliments, c'est les petites dates. Enfin voilà, non, mais je dis pour.
Sachant qu'en France, la DLC, elle est obligatoire. Donc, c'est-à-dire que tu veux vendre un produit, tu es obligé de mettre une date limite de consommation. Donc, ton produit, même si c'est du miel, par exemple, qui est impérissable, enfin, il y a plein de produits comme ça qui sont juste pas périssables, les confitures. Les conserves, il y a énormément de choses qui vont juste pas bouger et pourtant tu as une date limite de consommation, donc au bout d'un moment ça va se retrouver à la benne.
Mais alors il y a encore un autre truc, du coup une autre personne de Poubelle en Or m'avait dit qu'il y avait aussi parfois des problèmes de stock et du coup il y avait trop de stock, donc en plus là c'est des produits qui des officiellement n'ont pas dépassé, voilà. Et bah c'est pareil à la benne.
Enfin, les erreurs de commande, le pot explosé qui du coup va salir le reste des pots de moutarde, des pots de miel, des bouteilles d'huile. Plutôt que de nettoyer, ils vont tout jeter. Mais, ou alors, il y a aussi, on trouve des fois par exemple de l'électronique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ramène quelque chose en magasin, c'est plus sous blister, de renvoyer, ils n'ont pas prévu une chaîne pour renvoyer au fabricant, pour remettre sous blister pour que ça retourne dans l'emballage plastique pour empêcher les vols ou ce genre de choses. Donc voilà, ça ne revient pas, du coup ça va à la benne, quoi. Donc tu trompes sur des portables, des appareils photo, c'est du délire total ce qui est jeté. Puis en plus, il y a aussi l'aspect, ça me fait penser à l'emballage, c'est-à-dire quand il y a de la nourriture qui est jetée, il y a la nourriture, mais il y a aussi le plastique qui est autour, le contenant, c'est des pollution en plus, surpollution sur surpollution. Mais c'est aussi la façon dont on est organisé, c'est-à-dire que les hypermarchés produisent de l'emballage à un moment, de l'emballage qui n'est pas consigné, de l'emballage parce qu'on ne va pas gérer ça, parce que ceci, c'est des coûts. Et dans les années 50, on allait à l'épicerie, on coupait la motte de beurre, et puis la motte de beurre était emballée dans un papier, ou pourquoi pas, si on avait été zéro déchet, tu ramènes ton contenant et puis on te met directement dans le beurrier ton beurre. On pourrait faire des choses comme ça, quoi. Et concrètement, pas avoir tous ces déchets, sauf qu'on est dans des autres logiques, et puis il faut empêcher le vol aussi. Il y a tous ces trucs-là derrière.
La propriété, quand même, et cette idée de capitalisme, en fait, elle fait que... ce que j'entends dans ton discours, je ne sais pas si tu pourrais approfondir ça.
Pour moi, c'est un indirect avec le capitalisme, le fait de consommer des choses que tu n'achètes pas, tu vois.
Ouais, en mais fait, je pense...
Même... Mais...
pire que... C'est, moi, je ne mettrais pas le mot capitalisme, je mettrais le mot croissance, en fait. Ouais. C'est les logiques pour créer de la croissance, au même titre que, par exemple, les grands projets immobiliers inutiles dont on parlait, la piscine olympique à la Friche, dont il n'y a pas, absolument pas besoin, parce qu'en plus, il y a les infrastructures de transport pour aller à Dunkerque, pour... Je veux dire, ça va, quoi, on n'a pas... Surtout si c'est pour faire un truc qui va servir... Enfin, bon, bref.
Et qui va servir 3 jours, quoi.
Voilà. Enfin, y a, peut-être que, du coup, il y a des gens qui vont se découvrir une passion pour la plongée à Lille.
Moi, je pense que ça participe aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à la gentrification du quartier.
Bah, c'est justement ce que je disais, et pour ça que je disais que ce n'était pas les personnes moulinoises à la base, ou bien les personnes LGBTQI+, qui sont hyper précarisées par nos sociétés, qui vont pouvoir habiter dans les 2500 logements hype, hyper chers.
C'est ça, puis ça va faire grimper les loyers dans tout le quartier.
Si nous revenions quand même aussi.
Mais ouais,
oui, c'est vrai.
Mais tout est lié. C'est-à-dire que ce sont des logiques de croissance qui sont derrière tout ça. La ville doit croître, la ville doit être un espèce de truc... avec une rentabilité, quoi. Et donc, c'est pareil, la nourriture, on est dans des logiques de croissance qui sont complètement détachées du réel.
Et toi, Alice, du coup, pardon. Toi, Alice, du coup, toi, est-ce que tu nourris de récup? Est-ce que c'est devenu un...
Ah bah ouais, carrément.
Ça fait sens à ta vie aussi. Je sais pas si tu peux,
ouais,
tu peux en parler.
Moi, je dirais que ça va faire bientôt 2 ans que je me nourris quasiment exclusivement de récup, parce qu'on trouve, quasiment de tout, même s'il y a des choses qui sont plus rares. Quelqu'un qui va glaner plusieurs fois par semaine, il n'y a rien besoin d'acheter. Moi, j'achète plus de choses pour mes chattes.
Honnêtement, est-ce que ça change beaucoup à ton train de vie ou à ton quotidien de manger de la récup?
Ah bah déjà c'est économique de toute façon. Enfin concrètement de toute façon la récup. La première fois que j'ai glané, je me suis retrouvée dans une période où j'étais en mode frigo vide. J'ai mis très longtemps à aller glaner parce qu'on a aussi intériorisé ces trucs de il faut acheter sa nourriture. Il y a ce truc de servitude un peu où je dois payer parce que je dois gagner ma vie parce que je dois. Enfin il y a tout cette espèce de
truc. Mais les gens mettent très longtemps à penser à faire de la récup pour se nourrir.
Mais
enfin, moi j'ai
gens,
vu des
si
gens galérer avec l'argent.
Ouais. Alors le dégoût de la poubelle et cette idée d'hygiénisme absolu. Alors juste parce qu'on est en ric-rac niveau temps, Alice. Moi j'ai juste une petite dernière truc. Où est-ce qu'on peut venir vous rencontrer et puis pouvoir nous aussi se mettre à ces modes de vie un peu peut-être qu'on va tous se découvrir
une âme
de récupération et puis je pense que ça
de déchétarienne. C'est un nom, l'alimentation, c'est déchétarien ou frigane, ce mode d'alimentation. Et donc merci pour la question, j'avais noté donc maintenant on a un fonctionnement, on n'a plus de local, donc à l'usine Bis ça c'est fini, mais on a décidé de faire une réunion ouverte tous les 9 du mois. Donc on a une réunion dimanche prochain. S'il y a des personnes que ça intéresse de venir nous rencontrer, ben du coup il y a moyen de passer par la page Facebook pour venir. A priori il y a de fortes chances que ce soit au parc Matisse vers 16h ou fin d'après-midi. Et donc il y a la page Facebook pour nous trouver, Poubelle en Or. Il y a un site pareil, Poubelle en Or. On fait aussi des ateliers cuisine tous les 4e dimanche du mois au CCL. Bon, on va voir si on reconduit ça cette année, mais ça c'est un autre rendez-vous où nous trouver. Et puis il y aura certainement des moments où on va être dans la rue à faire de la distribution sauvage de nourriture cette année dans le centre-ville.
D'accord.
On est plusieurs à avoir bien envie de faire ça.
Bon, bah, génial pour nous avoir partagé tout ça. Merci à, merci à vous, merci à Alice, nos invités. Donc, on va vous quitter avec. Je t'en prie. On va vous quitter avec Polo and Pan, Arc-en-Ciel.